Dimanche dernier, nous avons fêté le Christ roi au dernier dimanche de l'année liturgique. Il est juste qu'en ce premier dimanche de la nouvelle année, en ce premier dimanche de l'Avent, nous fêtions son épouse ou sa fiancée, c'est-à-dire l'Église. L'Église qui se prépare à accueillir son Seigneur. On pourrait dire de ce premier dimanche de l'Avent qu'il est bien sûr un dimanche du réveil, de l'éveil, mais le dimanche de l'Église est donc le réveil de l'Église ou dans l'Église. Dimanche dernier, la deuxième lecture de la lettre aux Colossiens le disait, d'abord le Christ, au centre le Christ, d'abord le Christ, la tête de l'Église. Et donc, ensuite, l'Église, et c'est pourquoi le lundi, dans la semaine, dans les thématiques de la semaine, le lundi, nous prions pour l'Église. Vous voyez la séquence, le samedi, la Vierge Marie, le dimanche, le Christ, la résurrection, et le lundi, l'Église. Et c'est une bonne raison pour que les prêtres, et pas que les prêtres, pour que l'Église ne s'arrête pas ce jour-là, d'autant pour les prêtres que c'est le lundi matin que nous recevons le plus d'appels, au sortir du week-end, probablement comme pour les médecins. Et mes confrères qui sont avisés, lorsqu'ils font relâche plutôt le mardi, un peu comme les musées, pour les plus anciens. Mais cessez donc de penser que les prêtres sont pas là, sont off le lundi. Nous prions pour l'Église, et nous prions tous pour l'Église qui en a bien besoin. Et l'évangile que nous venons d'entendre nous parle de l'Église, dont il reprend plusieurs symboles, les symboles même les plus forts. La barque, l'arche de Noé, la vie pastorale, la vie des champs, avec ses femmes en train de moudre au moulin. Et puis la maison, l'édifice, la maison ici à protéger des voleurs. Et là-dessus, je n'invente pas, c'est l'Église elle-même qui s'est appropriée ces images, qui s'est appropriée ces symboles, qui les a validés dans un texte du Concile Vatican II, la Constitution dogmatique sur l'Église, Lumen Gentium, le Christ, lumière des nations. Et où elle dit ainsi que dans l'Ancien Testament, la révélation du royaume se fait surtout sous forme de figures. Et même maintenant, c'est par des images que la nature intime de l'Église se fait connaître à nous. Ces images sont empruntées soit à la vie pastorale et au travail des champs, soit à la construction des édifices, soit encore à la famille et particulièrement aux noces, au mariage. Il en va de l'Église comme de toutes les réalités futures du royaume de la vie éternelle. Nous voyons pour l'instant en figure, nous ne voyons que l'ombre des réalités à venir. Et c'est ainsi que l'Église, dit l'Écriture, c'est le bercail. Le bercail dont la porte est le Christ. Vous voyez la belle image. Revenir au bercail. C'est joli ça, revenir au bercail pour tous ceux qui sont un peu égarés, qui reviennent à l'Église et reviennent au bercail. C'est aussi le troupeau, le petit troupeau dont Dieu avait annoncé qu'il serait lui-même le pasteur. C'est encore la terre que Dieu cultive, où grandit l'olivier, celui de l'huile sainte, des sacrements, ou encore celui de la vigne, et nous sommes les sarments. Plus souvent encore, après ces images de la vie pastorale, il y a des images de la construction, d'architecture. Et le plus souvent, l'Église s'appelle l'édifice de Dieu. Vous avez peut-être vu ces dernières semaines sur les réseaux sociaux, il y avait une petite vidéo qui circulait où on demandait à un élève « Est-ce que tu peux faire une phrase avec le mot édifice ?» Et il répondait « Au nom du Père, édifice, c'est du Saint-Esprit. » Voilà, c'est mnémotechnique, comme ça on s'en souvient. L'Église, c'est la maison de Dieu, c'est ce qui se construit, la cité sainte, descendant du ciel. Alors, toutes ces images aussi variées disent une réalité vivante, en devenir, en voyage, en pèlerinage. C'est une réalité inachevée qui ne cesse de se construire. Et effectivement, l'Église se sent souvent en exil, loin, loin encore, loin des réalités d'en haut vers lesquelles nous portons notre regard. Dans toutes ces réalités, il y a l'image de la barque, la barque de Pierre où Jésus, de l'apôtre Pierre, ce n'est pas une barque en pierre, c'est une barque de l'apôtre Pierre où Jésus est monté, il a enseigné les foules avant d'appeler Pierre à le suivre. Eh bien, il y a deux préfigurations essentielles dans l'Ancien Testament de cette barque. C'est bien sûr l'arche de Noé, et puis c'est aussi le berceau de Moïse. La petite corbeille faite en papyrus, recouverte de bitume, où sa maman a placé Moïse pour le sauver. Et Moïse, ça veut dire « je l'ai tiré des eaux » parce que c'est l'image de quoi? Comme pour le déluge, du salut. Image de l'alliance et du salut. Il s'agit d'être sauvé des eaux de la mort. Remarquez que ces figures sont présentes d'une certaine façon dans la crèche de Noël, avec le berceau du nouveau Moïse.
C'est ce qui était annoncé. C'est un prophète comme toi qui viendra. Avec, évidemment, la vie pastorale, la vie des champs, avec le berger, les brebis, le bœuf et l'âne. Les images de la construction avec Joseph Charpentier. Et bien sûr, c'est la Sainte Famille, l'image magnifique de la Sainte Famille. Maintenant, nous devons considérer attentivement la façon dont Jésus utilise ces images dans les évangiles qu'on vient d'entendre. Où il les utilise, vous l'avez entendu, de façon sévère, rude, sous forme d'avertissement, et même, on pourrait dire, d'exclusion. Dans l'arche de Noé, ils ont été très peu nombreux à prendre place, très peu nombreux à être sauvés. Et ils ont été sauvés par la foi. C'est ce que commande la lettre aux Hébreux. Par la foi, Noé, divinement averti de ce qui n'était pas encore visible, saisi d'une crainte religieuse, a construit une arche pour sauver sa famille. Par la foi, il a condamné le monde. Et il est devenu l'héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Et Jésus précise que ce tri, dimanche prochain, nous entendrons l'annonce par Jean-Baptiste sévère, avec cet homme, celui qui vient avec la pelle à vanner, qui va effectivement mettre de côté le bon grain. Et la paille, elle brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Eh bien, ce tri, ce jugement, il échappe à notre compréhension. Il peut sembler aléatoire. Un homme est pris, l'autre laissé. Une femme est prise, l'autre laissée. Et puis, de façon encore plus forte, il y a cette image de la maison qui ne protège ses habitants que si eux-mêmes font attention, que si eux-mêmes la protègent. Il la protège, et à un autre moment de l'évangile, Jésus le dit, le royaume de Dieu souffre violence, des violents veulent s'en emparer. Si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait. C'est une chose d'empêcher le voleur d'entrer. C'est une chose d'empêcher les loups d'entrer dans la bergerie. Mais qu'est-ce qu'on fait quand ils sont entrés? Comme l'Église vient de le vivre, ou le vit encore de façon abominable, avec tous ces prédateurs. Et comment on fait pour empêcher qu'ils entrent à nouveau? Le pape François disait que l'Église, c'est la maison paternelle où il y a de la place pour chacun. Il faudrait pouvoir préciser, ajouter à la phrase, dire que l'Église, c'est la maison paternelle où il y a de la place pour chaque personne qui veut répondre à l'appel de Dieu et se conformer à ses commandements. Il faut que nous puissions dire, rappeler ce que Jésus dit, que la porte est étroite. Large et spacieux le chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui s'y engagent. Étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. C'est le réveil de ce temps de l'Avent. Et je vous en supplie, écoutons l'avertissement qui nous est donné. En ces jours-là, on mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, on ne se doutait de rien. Comment le Seigneur nous trouvera-t-il? Mangeant et buvant, prenant femme, prenant mari, ne nous doutons de rien, ou alors, d'une certaine façon, assurés du salut, assurés de sa miséricorde, comme si cela ne demandait pas notre conversion. Pourquoi le Seigneur nous met-il en garde aussi fortement? Les militaires se souviennent que sur les terrains d'opération, lorsqu'une sentinelle était trouvée endormie au lieu de veiller, endormie au péril de la vie de ses camarades, eh bien, la nuit suivante, on l'a placée hors du camp avec une grenade dégoupillée entre les mains pour lui apprendre à ne pas s'endormir. Alors, ce sont bien sûr des conditions extrêmes, mais c'est notre mission de veiller les uns sur les autres, de prier les uns pour les autres. Cela suppose que, ou plutôt, c'est la condition pour que nous retrouvions ce qui faisait la force de l'Église, ce sentiment de sécurité, de fiabilité. Et je vous promets que nous le retrouverons dans l'Église. ce sentiment de sécurité et de fiabilité, de fidélité au Seigneur. À charge pour nous
de retrouver son cœur de mère, son cœur maternel, de retrouver, s'il fallait une image, retrouver la tendresse et la douceur avec laquelle une maman va réveiller son enfant le matin. Imaginez Marie, Jésus enfant, imaginez Marie de quelle façon elle allait réveiller Jésus enfant. Pensez à la façon dont chaque matin elle ouvrait les yeux, avec le bonheur de sa présence, la présence non seulement de son enfant, mais de Dieu dans sa maison. Voilà ce que nous avons à vivre en ce temps de l'Avent, le réveil en nos âmes de l'amour de Dieu. Voilà la mission de l'Église, voilà cette belle image, retrouver cette douceur et cette fermeté, la douce fermeté avec laquelle une maman va réveiller ses enfants. Voilà l'Église, comme une mère qui réveille amoureusement ses enfants.